Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 16 juin 2026, il est 6h avant minuit, très exactement. Merci d'écouter l'émission d'info locale de Syllab sur le 88.4 à Rennes et sur Radio Bois dans le reste de la Bretagne. On commence tout de suite avec le flash de Cali. On t'écoute.
Le G7, lieu de discussion pour l'invasion russe de l'Ukraine. Cette semaine, à Evian en France, sommet réunit les diplomates de plusieurs pays européens, dont le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre avec le dirigeant russe pour cette occasion. Vladimir Poutine n'a pas répondu à l'invitation. Ces discussions ont quand même eu lieu. Les leaders du G7 ont acté quatre principes en faveur de Kiev, une union pour le soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, le constat que la dynamique est en faveur du pays, un accord pour augmenter la pression sur la Russie en la sanctionnant notamment avec le pétrole et le gaz, et enfin l'envoi de moyens de défense en Ukraine. Un premier ministre chute et le changement de régime commence. En Hongrie, depuis la défaite aux élections du premier ministre autoritariste Viktor Orban, le nouveau gouvernement vote de nombreuses lois. Vendredi, une loi a été déposée au Parlement pour libérer les médias du contrôle du gouvernement. Un autre changement, voté hier, plateforme à 8 ans consécutifs ou non l'exercice du pouvoir. Le nombre de mandats est également limité à 2 par premier ministre, ce qui empêche le retour au pouvoir de Viktor Orban. L'avenir de la Corse s'annonce-t-il plus autonome ? A partir d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale débat à propos d'une réforme de la Constitution pour plus d'autonomie à la Corse. Le texte dérange car selon le Conseil d'État et une tribune de professeurs en droit, il porte atteinte aux principes fondamentaux de la République, notamment à celui d'unité. Le nationaliste corse Gilles Simeoni prévient qu'un refus de la loi serait, je cite, « lourd de conséquences ». Une erreur stratégique, ce sont les mots employés par le nouvel exploitant du BHV Marais à propos de la collaboration avec le géant de la fast fashion Chine. Pour ce repreneur du grand magasin, Karl-Stéphane Cotendin, le contesté partenariat avec la firme chinoise doit prendre fin. Ce sera le cas d'ici Noël au Marais et pour le BHV Parly 2 dans les Yvelines. Mais pas dans les 7 BHV en région, anciennement appelé Galerie Lafayette. La plateforme chinoise est accusée de détruire le commerce français et a provoqué le départ de nombreuses marques du magasin, comme Dior, Sandro ou Guerlain. Dans le Finistère, le RSA, ça se mérite. Il faut justifier ses virements, parfois même infimes. Il faut expliquer ses créations artistiques publiées en ligne. Il faut fournir des relevés bancaires qui n'existent pas toujours. Hier, le président du département du Finistère, Maël de Calan, répondait de tout ça devant un juge. Anna, de quoi s'agit-il précisément ?
Un procès peu ordinaire s'est ouvert hier à Brest. Maël de Calan, président d'hiver droit du département du Finistère, comparaît devant le tribunal correctionnel aux côtés de son ancien directeur de l'emploi et de l'insertion, Romain Chantelot. Il est accusé par la CGT, la Confédération paysanne et 6 allocataires du revenu de solidarité active d'avoir mis en place un système de contrôle abusif et intrusif visant les bénéficiaires du RSA. Dehors, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées en soutien aux plaignants et plaignantes. Pourtant, le président du département semble sûr de lui. Selon l'Humanité, il adresse même des vœux de victoire aux allocataires. L'élu a d'ailleurs porté plainte pour diffamation contre Ludovic Morin, le secrétaire de la CGT, il y a quelques semaines. À la barre, les témoignages sont édifiants. Vianney raconte avoir dû fournir des relevés bancaires sur une période pendant laquelle il n'était même pas client de la banque concernée. Et faute de pouvoir les produire, il a été radié. Paul Charpentier, blessé sur un chantier il y a 15 ans, s'est vu réclamer des justifications sur des créations personnelles publiées sur un ancien site internet. La plupart des accusés perçoivent le RSA depuis 7 ans en moyenne en tant que travailleurs et travailleuses indépendants. Ils et elles utilisent le RSA comme un complément de revenu en plus de leur activité déficitaire. Et si c'est contraire à la loi, comme s'indigne Maël de Calan, la gauche estime que c'est avec les plus riches que la justice devrait être plus féroce. Plusieurs autres documents versés au dossier illustrent concrètement ce que les plaignants et plaignantes appellent du harcèlement administratif. Par exemple, un courrier reçu par un couple de bénéficiaires du RSA à la fin de l'année 2025 dresse une liste de près de 300 virements et remises de chèques, certains inférieurs à 10 euros. Il leur était demandé des justificatifs sous peine de recalcul du RSA.
Il semblerait qu'une chute du nombre de bénéficiaires du RSA soit plus importante dans le Finistère qu'au niveau national. C'est vrai ça, Anna ?
Oui, l'avocat des plaignants et plaignantes pointe un chiffre. Entre 2021 et fin 2025, le nombre de bénéficiaires du RSA dans le Finistère a chuté de 24,4% contre 3,4% au niveau national. Maël de Calan, lui, assume sa politique. Il parle de valeur travail et de lutte contre la fraude. Celle-ci est prévue et encadrée par la loi.
La décision est placée en délibéré au 7 septembre. Le 10 septembre, Maël de Calan reviendra devant la justice. Il est accusé d'avoir tenu des propos diffamatoires envers le député LFI Pierre-Yves Cadalan. Merci Anna. L'État et la région Bretagne doivent revoir leur copie dans le dossier Algues Vertes. Dans un rapport devant paraître début juillet, la Cour des comptes épingle les pouvoirs publics. Pour l'institution, il serait trop lent dans leur lutte contre le fléau touchant les plages bretonnes. Autre problème, une non-application des recommandations contre la prolifération de ces algues. Au même moment, la Cour d'appel de Nantes vient de condamner l'État pour préjudice écologique à Saint-Brieuc. Le préfet des Côtes-d'Armor doit présenter des mesures efficaces d'ici 6 mois. Davantage de contrôles sont attendus. Pour rappel, le surplus d'algues arrive lorsqu'il y a une trop grande quantité d'azote dans l'eau. L'Agence régionale de santé bretonne alerte. Un réseau géorgien organiserait un trafic de fentanyl en utilisant des ordonnances médicales. 3 personnes ont été mises en examen. La justice a trouvé 723 ordonnances, dont 206 volées et 517 falsifiées. Le fentanyl est un puissant analgésique pouvant provoquer une forte addiction. Aux États-Unis, c'est devenu un véritable problème de santé publique. Comptoir du Doc, l'association Rennaise de films documentaires, organise sa fête de clôture de saison à Grabuge, dans le quartier de la Courrouze, ce vendredi. Lorraine, responsable de la communication à Comptoir du Doc, nous en parle.
À l'occasion de notre fin de saison, on propose un événement à Grabuge, donc aux Halles en commun dans le quartier de la Courrouze, avec la plateforme Tank, qui est donc une plateforme de cinéma documentaire qui fête ses 10 ans. Et donc, c'est à l'occasion de cet anniversaire-là, et puis nous, de notre fin de saison, qu'on s'associe pour proposer un événement autour de la thématique des joies militantes. Là, c'est plutôt aller interroger le militantisme, mais du côté de la fête, du côté du collectif et du côté du pouvoir d'action de chacun. Pour le programme, donc on se donne rendez-vous à partir de 18h. On propose avec un intervenant de réaliser des ciné-tracts à partir de rushs de pellicules. Et c'était l'idée de faire des microfilms de 1 à 3 minutes avec des messages très revendicants ou en tout cas très politiques. Et puis ensuite, on aura une table ronde autour de la question de la joie militante avec deux invités. Juliette Rousseau, qui est une autrice bretonne, qui est très, très militante elle-même et qui s'intéresse beaucoup plutôt aux questions de féminisme et de ruralité. Et en face d'elle, ou à côté plutôt, on aura Laurie Lassalle, qui est une réalisatrice qui elle-même milite beaucoup. Et là, elle va nous présenter son film « Forêt rouge », qui a été tourné il y a quelques années sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et on aura également la présence de le groupe Louvre, qui est une chorale féministe qui circule pas mal sur Rennes et qui nous ont concocté un petit répertoire de musique militante. Cet événement est gratuit, c'est en accès libre toute la soirée. Vous pouvez même venir à partir de 22h juste pour le film, qui sera projeté, lui, en plein air, vraiment devant les hangars de Grabuge.
C'était Lorraine de Comptoir du Doc au micro d'Anna.
Et c'était le flash de Cali. Merci beaucoup à toi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et aujourd'hui, dans l'interview, on parle musique émergente, scène locale et festival engagé, parce que nous allons parler du Droukfest qui a lieu pour une 3e édition au pied des ruines du château d'Edé Bazouge les 3 et 4 juillet prochains. Et pour ça, nous recevons Joséphine Vittoria, présidente de l'association Les Drouk, avec un t-shirt blanc et une frange brune. Bonsoir.
Bonsoir.
Océane Bourdillon, membre active, responsable de la démarche éco-responsable et de la coordination de l'équipe graphique, avec un top vert et des boucles d'oreilles dorées. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Léa Rian, qui est en train de s'installer, membre active et trésorière, avec une queue de cheval blonde. Bonsoir Léa.
Bonsoir.
Bonsoir les Drouks.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça se passe l'organisation d'un festival entre Drouks? J'ai cru comprendre que vous essayez de fonctionner de manière horizontale. Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Ça signifie que chaque année, quand on renouvelle l'édition, on fait une assemblée générale et on essaie d'attribuer à tous des rôles qui leur plaisent. Et après, on n'est pas tout seul sur ces rôles-là, puisqu'on s'entraide sans arrêt si on a des soucis, si on a besoin d'autres personnes. Et le but, c'est que tout le monde puisse prendre des décisions, qu'il n'y ait pas de voix qui compte moins. Voilà, c'est comme ça qu'on marche.
Vous approuvez?
Oui. Oui.
Est-ce que vous pouvez revenir sur la création du Drouks-Fest? Racontez-nous tout ça, les débuts.
La création du Drouks-Fest, au départ, c'est né dans un bar entre trois copines, donc trois Drouks, qui ont discuté d'une volonté de vouloir faire un événement parce qu'on avait beaucoup d'amis qui étaient musiciens et qu'ils n'avaient pas de scène. Et on a voulu faire un truc à la base, pas forcément hyper légal. Enfin, on voulait faire un truc dans une maison ou dans un champ.
Genre de free party.
C'est ça. Et finalement, on s'est lancé, on en a parlé autour de nous, direct, on en a parlé aux artistes. Et là, c'était trop tard, on ne pouvait plus faire machine arrière. Donc on a commencé un peu à faire des demandes à la mairie, à l'État, des subventions, à la préfecture, tout ça. Et puis là, c'était trop tard. Du coup, on était lancé au festival. Voilà.
Et on parle de Drouks depuis le début, mais qu'est-ce que ça signifie, ce nom?
Alors, Drouks, en breton, ça veut dire méchant taliban. Voilà.
Ça a le mérite d'être clair. C'est comme ça que vous voyez?
Non. En vrai, on est gentil. Mais...
Oui, voilà. Non, c'est ça. De base, on est juste un groupe d'amis et on avait trouvé un nom pour rigoler. Et puis finalement, c'est devenu le nom du festival.
Oui.
Il faut préciser que ce festival a été fondé donc par des étudiantes et le « te » de étudiante est important là-dedans. On parle d'une direction 100% féminine, ce qui est assez rare pour être souligné quand même. Est-ce que le fait d'être des étudiantes et encore plus d'être des femmes a été un frein à certains endroits dans la création de ce festival ou est-ce qu'au contraire ça a été une force pour vous?
Je pense qu'au départ, ça a été un frein parce que les gens ne nous prenaient pas forcément au sérieux. Mm-hmm. Surtout que quand on l'a créé, on avait 18 ans. On avait beaucoup de mal à trouver des partenaires, trouver des personnes qui nous prenaient au sérieux. Même souvent, ça nous arrivait d'avoir des réflexions un peu macho. Mm-hmm. Et finalement, au-delà de ça, on est passé au-dessus. Et les gens, quand même, ils sont fiers de voir que les jeunes, ils se bougent. Et que surtout des filles, oui, c'est rare, se bougent sans l'aide d'hommes.
Mm-hmm. Vous avez bien fait de passer au-dessus de tout ça. Hein. Oui. Avant de parler de la prog, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur l'affiche du Drouks-Fest. Déjà, je vous propose de la décrire vu qu'on est à la radio et qu'on ne peut pas la montrer.
Alors l'affiche, on peut voir le château dans le fond. C'est très chaud parce qu'on a voulu représenter l'été et le soleil, etc. Et donc c'est deux graphistes qui se partagent les tâches. Donc on a Enzo Tenas et Mallory Miatti qui... travaillent ensemble pour réaliser cette affiche et tous nos postes. Voilà.
Ouais. Et Enzo était à Rennes 2 d'ailleurs. Mm-hmm. Et Mallory est étudiante de Rennes également. Et au-delà de ça, c'est une affiche qui nous représente, je pense. On a tous donné nos avis dessus, on a tous travaillé dessus. Mm-hmm. Et on remercie les graphistes pour le travail qu'ils ont fait parce que c'est magnifique.
Des graphistes humains, ouais. Ça fait plaisir aussi.
Clairement.
Je vous propose qu'on commence à faire un peu le tour de la prog. On va commencer par Iris 2000. Ça s'appelle Soft Boy. Parlez-nous de cette artiste.
Iris 2000, elle est rennaise, je crois bien. Et elle a postulé, comme beaucoup d'artistes, à l'annonce qu'on a fait sur Instagram en août, si je ne me trompe pas. Et nous, on a eu un coup de cœur parce qu'on a beaucoup aimé son profil, on a beaucoup aimé les musiques qu'elle fait. Et surtout, on voit qu'elle se donne beaucoup. Elle fait tout pour faire de nouvelles scènes, on le voit bien. Et c'est pour ça qu'on l'a choisie. Et surtout, on aime beaucoup ses musiques.
On pourra l'entendre le 3 ou le 4 juillet?
Iris 2000...
Ah, question piège, désolée.
Ouais, question piège.
Bon, l'un ou l'autre.
Je crois que c'est le 3 juillet. Ouais, 3 juillet, premier c'est jour. La première artiste le 3 juillet.
Ok. Une autre caractéristique importante du Drogfest, c'est sa dimension éco-responsable. Vous le mettez beaucoup en avant. Il a même été labellisé Festival éco-responsable. Est-ce que c'était quelque chose qui était important dès le début pour vous dans l'asso?
Oui. Alors, parce que c'est fait partie de nos engagements à tous dans les Drogues. Et on a première édition, c'était compliqué. On faisait avec nos moyens pour minimiser nos impacts. Mais là, actuellement, on a évolué. Donc, c'est la troisième édition. On essaie de faire au mieux. On organise une friperie Emmaüs. Donc, on a une collaboration avec Emmaüs. On organise également un défilé de mode Emmaüs à 16h le samedi pour mettre en avant l'achat en seconde main et pas en fast fashion. Et on a également un stand éco-responsable organisé par Océane.
Oui, donc on a un stand sur 2 jours éco-responsable avec quelques questions pour sensibiliser tout le monde, donc petits et grands. Et on a aussi des lots à gagner dans ce stand. Donc voilà, venez nombreux.
Non, vas-y.
Et grâce à la collaboration notamment de la Biocoop.
Oui, avec la Biocoop.
Est-ce qu'en plus des stands, ça se traduit dans l'organisation du festival, cet engagement écologique?
Oui, totalement. En fait, on essaie d'avoir un petit peu partout un impact moindre. Par exemple, rien que dans nos designs, on parlait tout à l'heure des graphistes. Je sais qu'ils utilisent des encres qui vont être moins polluantes. Pareil, quand on va imprimer, on va utiliser des papiers recyclés. Après, on utilise peu de moyens de transport qui ont un impact. Ouais, voilà, c'est ça. Et on privilégie dans le festival le covoiturage, le bus, quoi d'autre, je sais pas.
Qui vous l'a attribué ce label? Comment est-ce qu'on l'obtient?
C'est une demande qu'on fait, je sais plus qui exactement, mais c'est une demande, c'est un truc à remplir qui doit être très complet.
D'accord. On va poursuivre avec un autre extrait de la prog. C'est Ben Diaz, PES4? PES4?
Ouais, PES4. PES.
J'ai son épaule gauche qui me surveille pendant que mon épaule droite me rassure. C'est la merde, faut que j'assure. Ça fait 3 ans que je grandis, je suis toujours petit. Bientôt 5 ans de ma vie que je suis averti. Faudrait que je voie d'autres gens que mon ordi. Sauf que lui là, j'échante puis que son zebla est certifié. Mais bon, certes, je m'y fais. Tout dans RNS, pas dans RIPA. Si je kiffe, moi je souris pas. Donc mon regard faut patifier.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet artiste?
Alors Ben Diaz, on a une attache un peu particulière parce qu'il a demandé à être présent à toutes les éditions qu'on a fait depuis le début. Mais malheureusement on ne pouvait pas le prendre parce qu'il avait pas mal d'instruments et qu'au départ on n'avait pas les moyens d'accueillir des artistes avec beaucoup d'instruments. Et il nous a invités plusieurs fois à ses showcases, etc. Donc voilà, on l'a pris parce que cette année, en plus, il y a quelqu'un qu'on apprécie, c'est quelqu'un de très talentueux qui essaye de... Ouais, je sais... Enfin, qui donne tout, en tout cas, pour réussir. Ça se voit également.
Qui est du coin?
Oui, aussi. Totalement, oui. Rennais.
Parce que c'est quelque chose aussi que vous mettez beaucoup en avant, cette envie de mettre en valeur la musique locale, émergente. Pourquoi ce choix?
C'est un choix également éco-responsable, déjà. Mm-hmm.
Pour faciliter l'accès aussi, que ça soit moins compliqué pour eux de venir et de se faire découvrir, connaître et de se développer pour la suite, quoi.
Parce que c'est bien aussi d'avoir une présence locale, parce que les gens, s'ils les voient là, ils vont avoir tendance à vouloir connaître d'où ils viennent, qui ils sont. Et je pense prendre des personnes qui sont de la région, ça aide à ce qu'ils se lancent dans ce milieu de la musique où il y a beaucoup d'artistes.
Beaucoup de premières scènes au Drogfest. Est-ce que vous soutenez cette création locale? Est-ce que vous accompagnez aussi ces artistes par ailleurs, en plus du festival?
Oui, on essaye de... vu qu'on est un festival et qu'on a quand même des contacts, notamment d'autres festivals, dès qu'on a un moyen de pouvoir les mettre sur une programmation, on leur envoie là où ils doivent postuler. On leur donne des conseils. Également, on en parle aux gens autour de nous pour leur dire que cet artiste-là, il a fait vraiment quelque chose de bien, qu'il est une personne agréable, tout ça. Et on en parle tout le temps autour de nous. Sinon, on les aide dans l'organisation. On sait que des fois, c'est des jeunes, notamment, parce qu'on prend des personnes entre 18 et 30 ans, règle générale. Et on les aide pour les défraiements, on les aide parce qu'on sait que c'est pas facilement atteignable forcément de devenir un artiste connu du jour au lendemain.
D'ailleurs, on peut mentionner aussi que des DJ vont prendre le relais en soirée, qu'il y aura des sessions freestyle. Et on pourra notamment entendre des membres du collectif Reuse qu'on a reçu, nous, dans 6 heures avant minuit, le 28 avril dernier. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore ce collectif, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Le Reuse, c'est... Alors, nous, on connaît parce que c'est Suliac, le photographe de notre festival, qui fait partie de cette association. Et ils nous ont proposé, donc ils font des freestyles, ils organisent des freestyles depuis, je pense que ça fait un an qu'ils font ça, je ne sais plus exactement.
C'est très récent.
Ouais, c'est récent. Et ils l'ont notamment fait avec des artistes que nous on connaît bien, qu'on a déjà accueillis au Talkfest. Et donc c'est pareil, c'est un groupe de jeunes, d'amis, je ne me trompe pas. Et ils sont rennais, enfin c'est un collectif rennais. Et du coup cette année, ils viennent à 18h le samedi pour ouvrir le deuxième jour, en tout cas la scène du deuxième jour, avec un freestyle d'une heure où ils vont accueillir, je crois, 6 petits groupes d'artistes, à peu près.
On écoute B-Summer de Minty.
J'étais qu'un jeune gamin qui voulait s'amuser tout le temps. Puis le temps est passé et j'ai perdu cette insouciance. Mon cerveau est cassé, il va sûrement prendre des vacances. Mon cerveau t'a fané, c'est tes histoires d'adolescente. Je vais remonter si haut, car longue était la descente. Je vais remonter si haut, après cette convalescence. Et plus jamais j'haïrai le jour où de ma naissance. Et plus jamais j'haïrai le jour où de ma naissance. Viens enfin les paupières, viens, je vois le soleil arriver. Je peux m'allonger dans l'air, t'es enfin arrêté de pleurer. Faut dire que la vie est belle, depuis que j'ai tout arrêté. Faut dire que la vie est belle, car
Mithy, alors, on en parle.
Eh bien, c'est un ami à nous et qui a commencé à se lancer dans la musique et donc qui fait un peu du rock. Et donc voilà, sa première édition pour lui, pour le Droogfest. Et voilà.
Ouais. Rap
autre
rock,
style.
Ouais, c'est ça change un peu. Et ouais, c'est vraiment un ami très proche à nous. Et beaucoup de ses collègues avec qui il fait de la musique, on les a également accueillis au Droogfest. Donc il voulait lui aussi participer au Droog.
C'est une histoire de copains, le Droogfest.
C'est un peu ça, ouais.
Haute valeur importante pour vous, la localité, le territoire, déjà en valorisant le patrimoine avec cet événement dans les ruines du château, mais aussi en mettant en avant des associations, des entreprises du territoire qui sont de véritables partenaires pour vous. Quelle place auront-ils et elles, ces partenaires, pendant le Droogfest ?
On a parlé de Emmaüs, notamment. Mm-hmm. Qui du coup sont très présents et qui nous aident beaucoup depuis le début, qu'eux, ils n'ont jamais eu de mal à nous aider. Et ils nous passent beaucoup de matériel, ils nous le donnent carrément. Et du coup, cette année, on s'est dit qu'on voulait également les mettre en avant, même s'ils ont déjà pas mal de popularité. C'est aussi un ancrage local parce qu'il y a un grand Emmaüs à aider, donc là où il y a le festival. Et on avait envie d'en parler parce que c'est une industrie. Enfin, donc on va expliquer. Enfin, c'est des personnes très présentes pour nous. Sinon, on a l'Heureuse, donc on a également des amis à nous qui vont tenir un stand merch. On a
des food trucks.
On a une tatoueuse locale de Tintignac. Voilà. Après, la Biocop, pareil, c'est à Tintignac. Quoi d'autre ? Je ne sais pas. J'oublie peut-être.
C'est déjà pas mal. Hein. Entre deux stands, on pourra aller au concert de. E majeur, c'est seul.
Je me suis égarée, et mais ça m'a détourné.
J'ai eu le sentiment
qui se sont étonnés
contre moi.
Ça me fait marrer, j'ai toujours l'envie de me parer. J'ai voulu redémarrer, mais ça retombe
à chaque fois.
Mais c'est le même, mais j'ai toujours pas faim de choix. Je vois pas le bout du tunnel, mais c'est toujours tout noir.
Et majeur.
Et majeur, donc c'est un style plutôt électropop. Et nous, c'est un style dans l'association qu'on écoute pas mal, notamment avec Aaron, Baby Solo, tout ça. Et du coup, on avait aussi envie de prendre quelqu'un qui correspondait à nos goûts perso. Et surtout, pareil, c'est une jeune. Je ne sais plus d'où elle vient exactement, mais c'est pas non plus. Je pense que c'est pas Paris ou Nantes, je sais plus. Et voilà, on a trouvé que c'est une personne très agréable et on avait très envie de la prendre.
Pour la deuxième édition du festival, donc pas l'année dernière, mais celle d'avant, il y avait 1000 festivaliers et festivalières à peu près. Vous essayez de maintenir des tarifs accessibles, donc c'est 10 euros la soirée, 17 euros les deux jours. C'est quoi votre modèle économique ?
Nous, c'est une association à but non lucratif, donc on fait des bénéfices des fois, mais on ne prend pas d'argent pour nous. Et souvent, on essaye de faire d'arriver au nombre qu'on a prévu. C'est pas toujours évident, surtout cette année où il y a des coupes budgétaires par rapport aux subventions. C'est pour ça que cette année, on a augmenté la place de 2 euros. Ça reste 10 euros le jour, 17 euros les deux jours, c'est pas excessif. Mais ouais, c'est compliqué de tenir le cap, je dirais particulièrement cette année. Donc voilà.
Ouais, c'est le cas pour beaucoup d'associations, malheureusement. Mais on peut espérer que le public sera au rendez-vous. Je vous propose d'écouter un dernier extrait. Ça s'appelle Slim Jong-un de Le Slim.
Flow dictatorial, Slim Jong-un. Je suis tellement heureux quand le bifton se doux, même si je kiffe son boule. Je suis dans un rêve, donc la fiction me saoule. J'ai l'esprit embrumé, fait que la vision se trouble. Prends note sur mes textes, fiche ton cours. Papa m'a dit si les démons te poursuivent, fiche ton cours. Mais là, je veux qu'ils la prod et je crois qu'ils sont pour fait. Faut que je me tire, je m'échappe d'ici comme la fête taille longue. Pour me faire sucer dans la baie d'Along. T'as le nez de Pinocchio, moi j'ai le nez d'Arlong. T'as la petite fumette, j'ai la baie d'Avlong. Ton rap, c'est de la bombe, ouais. Ouais, c'est de la bombe, c'est éclaté au sol. Il manque de force, je fais des arrêts au sol. Je viens les pulvériser comme un aérosol.
Alors déjà en studio les basses là ça rend pas mal, alors j'imagine qu'en live ça va être sympa.
Ouais ouais, le Slim c'est un artiste, bon là c'est beaucoup plus rap, rap dur, mais c'est un artiste à titre personnel qui me fait beaucoup rire parce qu'ils font de la promotion sur leurs réseaux sociaux très rigolote, ils sont très investis.
Hâte d'entendre ça, donc voilà il y aura 11 artistes programmés en tout pour les noms de celles et ceux que nous n'avons pas écoutés pendant cette interview, on peut quand même les mentionner, donc Orion et Edios, Spaceband, Purple, Ambre Amélie, Tonio, Massimiliano Lai. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Non, c'est parfait.
Eh bien, rendez-vous au Droogfest alors, c'est à 20 minutes de Rennes, accessible en covoiturage, en bus depuis Rennes, il faut prendre le Bresgo 580. Donc rendez-vous dès 17h, les 3 et 4 juillet, au Rhin du Château des Débazouges. C'est 10 euros la soirée, 17 euros les deux jours. Merci à vous.
Merci également.
6 heures avant minuit.
On passe à la chronique et le mardi, c'est Chronique Fake News. Ce soir, c'est avec Ishan. On parle du départ de Kylian Mbappé du PSG qui serait peut-être lié à Emmanuel Macron, Ishan.
De jeune homme prometteur de l'AS Monaco à meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, vous connaissez sûrement Kylian Mbappé, le fameux footballeur français. En 10 ans de carrière, cette légende du foot s'est forgée un nom à l'international. Meilleur buteur de Ligue 1 de 2019 à 2024, 56 buts en équipe de France dont il deviendra le capitaine, il va jusqu'à être sponsorisé par les plus grandes marques comme Nike, Hublot ou encore Oakley. Cette renommée incontestable est affirmée par le joueur lui-même, comme il le disait avec humour le 6 juin 2026 au micro du Parisien. « Je suis au-delà de super célèbre, ma notoriété est hors norme. » De plus, Mbappé fait partie des célébrités françaises les plus médiatisées depuis 2020. Normal quand on est constamment poussé sous les feux des projecteurs. Cependant, cette visibilité extrême peut lui porter atteinte, comme on l'a vu il y a quelques jours. Vous le savez, Kylian Mbappé s'est installé dans la capitale espagnole depuis l'été 2024, où il arbore les couleurs du Real Madrid, après 7 saisons passées au PSG. Encore au journaliste du Parisien, le joueur affirme « Je suis très content à Madrid. Je peux sortir, parfois sans sécurité. » Enfin, il conclut « Je peux vivre, plus qu'en France. » Néanmoins, les raisons de ce départ restent floues. Les rumeurs courent et pour alimenter les rumeurs, les fake news se multiplient. Une infox, en particulier, a été largement relayée sur les réseaux sociaux. C'est un article, prétendument publié par Eurosport, qui a fait tant réagir les Français. Selon l'article, le footballeur aurait accusé le président Emmanuel Macron d'avoir été la cause de son départ au Real Madrid.
Mais alors que dit exactement ce faux article ? Quelles en sont les caractéristiques et surtout, qui se cache derrière sa publication ?
Eh bien, l'article a été publié 2 ans après le départ du footballeur sur un site internet copiant le formatage du site de l'Eurosport. L'article affirme « Le départ du sportif aurait été causé par un harcèlement sexuel commis par nul autre que le chef d'État français ». On y voit d'ailleurs une vidéo doublée par la voix supposée du footballeur s'exprimant sur le sujet. À un moment donné, cette attention indésirable est devenue insupportable. Je savais que la seule issue était de quitter le PSG et de partir de France. Suite à la publication de ce faux article, les réseaux sociaux s'enflamment, sans surprise, et de nombreux posts y sont publiés, notamment sur Instagram et X. Ces posts montrent également une vidéo issue de l'article où on voit, entre autres, Emmanuel Macron enlacer le footballeur. Cela renforce la croyance que le comportement inapproprié du président envers Mbappé serait la cause du départ de ce dernier. Selon l'Agence française de la presse, ou AFP, aucune prise de parole de Kylian ou de ses proches n'aurait confirmé une telle raison de son départ. Contacté le 10 juin 2026 par l'AFP, le média Eurosport a confirmé que cet article était faux et que les contenus publiés sur le site n'avaient aucun lien avec le vrai groupe Eurosport. D'ailleurs, de nombreux éléments suspects auraient pu nous mettre la puce à l'oreille concernant l'authenticité du faux article. En effet, le site web Factis pratique le typo-squatting, c'est-à-dire l'utilisation d'un nom proche à celui connu par le public. Ainsi, l'adresse web du faux site est euro-sport.fr, tandis que la véritable adresse est eurosport.fr sans tirer. De même, le voice-over de la vidéo associé à l'article a très probablement été généré par intelligence artificielle au vu de la diction robotique et morne de l'automation. Autre découverte surprenante, l'usurpation de l'identité numérique de Martin Monnier, un journaliste d'Eurosport. Le site web Factis affiche clairement Martin Monnier comme rédacteur de l'article. Le journaliste a été contacté par l'AFP et a démenti toutes affiliations au faux site web. Mais si ce n'est pas Martin Monnier, qui est à l'origine de cet article qui a fait tant parler? Eh bien, c'est en réalité le réseau russe Storm 1516 qui se cache derrière ce site. Le ministère des armées françaises a en effet confirmé que la méthode de publication de l'article était fortement similaire à celle de ce réseau. Sur le site du ministère, on peut lire à propos de l'organisme étranger. Actif depuis au moins août 2023, Storm 1516 a pu, par son ampleur, avoir des impacts sur le débat public européen, voire influencer plusieurs scrutins électoraux. La note de bas de page nous indique des exemples de ces scrutins électoraux. On y retrouve, entre autres, les élections législatives françaises de 2024 et les élections présidentielles américaines de 2024 également. Suite à ces ingérences russes, le ministère des armées françaises publie le 14 mai 2025 un rapport informant sur le mode opératoire du réseau Storm 1516. Malgré la publication de ce rapport à visée préventive, les ingérences étrangères du réseau ne se sont manifestement pas arrêtées, comme le démontre le dernier cas impliquant Kylian Mbappé et Emmanuel Macron. Les journalistes français s'inquiètent. Martin Monnier a pris la parole devant l'AFP et déclare à propos du statut d'un journaliste « Si demain ce genre de fake news se multiplie par 10, ça va être compliqué d'exister et de conserver une légitimité. » Dans ce contexte de forte crise politique et géopolitique, il est donc indispensable de conserver notre esprit critique par-dessus tout.
Merci pour ce bon conseil, Ishan. À bientôt dans 6 heures avant minuit. On regarde si on a des messages vocaux sur le répondeur.
Téléphone.
Allô. Allô.
Syllab, la radio sauvage.
Et non, rien, mais n'hésitez pas, laissez-nous un message vocal, on diffuse ça à la fin de l'émission. Si par exemple vous allez, je sais pas moi, aux ruines du château des Bazouges pour des super concerts, appelez-nous depuis là-bas, faites-nous partager le moment, on diffusera ça à la fin de l'émission. Le numéro c'est le 02 30 96 25 35. Ce soir à la technique, c'était Timour, merci à toi, à demain dans 6 heures avant minuit.
Exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure
prévue. 6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.